toutes et à tous sur le 106.6. On est dimanche 11 juillet, il est 11h03. On n'est pas trop en retard, c'est nickel. On accueille au studio l'équipe, toute une équipe de Joyeux Luron et Luron sur le, de l'Envolée. Équipe de l'Envolée qui font de la production anticarcérale diverses et variées, de la grosse prod, comme on dit dans le game. Bravo les gars, bravo les filles. On a du public aussi avec nous. De la folie ce soir, il y a du gros public.
Ah ouais, franchement, ça met la pression.
Ouais, ça met la pression. Ouais. Voilà.
Il y a beaucoup de public.
Voilà. Ouais, allez, big up le public, on n'entend rien. Allez. N'hésitez pas à appeler.
T'as pas dit ce soir? Non, il est 10h du matin.
Ouais, bah, je suis encore hier déjà. Soir, moi.
Non, c'est 11h03. Excuse-nous.
N'hésitez pas à appeler au numéro qu'on a déjà cité plein de fois, que j'ai pas par cœur, mais n'hésitez pas à appeler. Au cas où, hein, s'il y a quelqu'un qui est réveillé, qui se dit, ah, je peux appeler.
06 71 96 81 57.
Bravo, merci.
06 71 96 81 57.
Nickel. Eh ben, à vous de jouer, l'équipe. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui?
On va à la prison, hein.
Sans blague, non.
C'est un peu original.
Ouais. Allez, prison alors.
On va parler des 40 ans de l'abolition de la guillotine. Donc c'est en 81, voilà, on est en 2021. Et on va parler également des violences pénitentiaires, parce qu'en fait, non seulement la prison elle tue toujours, et donc l'abolition de la peine de mort n'a pas eu lieu, mais continue aussi à torturer les gens, et les gens se font tabasser encore aujourd'hui à l'intérieur.
Yes. Ouais. Peut-être qu'on peut faire un petit tour de table d'abord, parce qu'on est plusieurs aujourd'hui, du coup de l'équipe de l'Envolée.
Vas-y, t'es qui toi?
Alors moi je suis K, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Salut, c'est Elsa.
Ouais, moi c'est Joël.
Salut, c'est Greg.
Yeah, et on est accompagné d'un genre de public super stylé. Du coup, par où on commence, comment on fait?
On peut expliquer pourquoi on y tient beaucoup à parler de ces 40 ans de l'abolition, soi-disant, de la peine de mort. Il va y avoir encore une petite fête, je sais pas, de gouvernementaux, de politiciens, je sais pas quoi, qui vont dire « Ouais, c'est super, on est trop humaniste, on a aboli la peine de mort il y a 40 ans. » Et nous, on dit depuis longtemps que la peine de mort n'a pas été abolie, c'est la guillotine qui a été supprimée. Et si on le dit, c'est parce que les gens qui sont en prison, qui subissent toutes sortes de violences ou qui meurent à petit feu dans des cellules d'isolement ou dans des centrales qui sont des mouroirs, le disent eux-mêmes. Voilà.
Oui, c'est même les premiers à le dire, et c'est aussi nous qui relayons beaucoup cette parole.
Enfin, en 2001 déjà.
Exactement.
C'est des prisonniers qui ont dit la peine de mort n'a pas été abolie. Puis plus tard, puis d'autres fois, qui ont appelé à troubler la fête.
Exactement. Et du coup, on peut peut-être rappeler que le numéro 53 de l'Envolée est sorti, et que du coup, le thème du numéro 53, c'est cette fameuse abolition de la peine de mort prétendue. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu du coup le visuel de l'Envolée 53, mais c'est une référence à un film français qui est super bien, qui s'appelle Le Trou, et où on voit quatre personnes autour d'un sablier, et ils disent, hey, les potes, pareil, qu'ils vont fêter les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Parce qu'en fait, nous, on constate, parce qu'on est en lien avec des personnes à l'intérieur et qu'on correspond, ou on a des nouvelles très régulièrement avec des personnes et surtout avec des longues peines, que l'abolition de la peine de mort, notamment, ce qu'elle a fait, c'est que concrètement, il n'y a pas de plafond pour les peines, et que du coup, les peines sont de plus en plus longues, et que du coup, de la peine de mort qui a été abolie, on arrive à des peines jusqu'à la mort qui, elles, existent réellement, et les personnes, elle ne voit aucun sens à ça, et du coup, en fait, les centrales, les maisons centrales sont des mouroirs. Les gens, ils sont enfermés jusqu'à leur mort très souvent.
Et puis à ça, il y a la mort par manque d'accès aux soins, les morts par suicide, et puis évidemment, ceux qui sont tués par les matons, on va en parler dans la deuxième moitié de l'émission.
Oui, tout ce qu'on appelle les morts suspectes.
Sans oublier aussi que l'État assassine aussi dans la rue. Le nombre de gens qui sont morts entre les mains de la police, on dirait qu'ils ne cessent pas d'augmenter. Et on n'appelle pas ça des bavures, puisque en fait c'est tout un système qui permet ça. Puisque, entre autres, la justice acquitte systématiquement les policiers qui ont tué quelqu'un. Ou presque systématiquement, on va dire. Et aussi, justement, on disait que les peines s'allongent. C'est le système pénal qui veut ça, et qui a été... élaborée depuis 40 ans pour ça, pour allonger les peines, pour rendre les remises de peine, donc les moyens de sortir un peu plus tôt que prévu de prison, pour les rendre impossibles ou de plus en plus réduites. Excusez-moi.
Pause enfant.
Et aussi et surtout parce que les peines se multiplient. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses qui sont pénalisées, plus en plus de choses qui sont criminalisées, plus en plus de choses pour lesquelles avant on n'aurait rien eu ou une amende, pour lesquelles on va en prison maintenant.
Et ça, de plus en plus de gens en prison.
Donc de plus en plus de gens en prison, on peut appeler ça par exemple le surenfermement. Mmh. Par exemple, il faut bien rappeler que maintenant en prison, il y a plein de gens qui sont pour des petits vols par exemple, mais ça c'était peut-être déjà le cas avant, mais pour défaut de permis. Et ça, les gens qui sont en prison le disent, mais c'est un truc de dingue. Depuis quelques années, il y a plein de gens qui déboulent ici pour défaut de permis. Et t'entres une fois pour ça, après t'es dans l'engrenage. Quoi. C'est un exemple parmi d'autres.
Et je fais un peu une OPA, mais j'ai l'impression que ça pourrait être intéressant de lire juste un petit extrait du collectif des prisonniers de la centrale d'Arles qui, du coup, eux, faisaient un appel, parce que nous, en fait, on le relaye un peu 20 ans plus tard, mais du coup, à troubler la fête, l'heure super fête des 40 ans de l'abolition de la peine de mort, en appelant à une journée de résistance qui, du coup, appelait à gâcher la cérémonie d'anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Alors, je ne sais pas comment lire un extrait court, parce que je sais qu'on n'a qu'une heure, mais peut-être j'essaye de lire vite. Ça vous va ou pas ?
Ouais, lis tranquille.
Sinon, tu lis la fin.
Début et le milieu.
Ouais, non.
Non, vas-y.
Nous, prisonniers qui vivons dans le ventre de la bête carcérale, nous adressons cette supplique à ceux qui, réunis, fêteront l'anniversaire. La mort a-t-elle quitté le monde de la punition ? Non. Il n'est jamais mort autant de prisonniers depuis le temps de la malaria de Cayenne. Non. Les prisons actuelles sont des mouroirs où le mortifère est élevé sur des autels aux fleurs incompressibles. Prison-hôpital, prison-asile, prison-hospice, suicide, automutilation, folie, mort lente, violence des surveillants et d'autres prisonniers, arbitraire. C'est pourquoi nous appelons à marquer chaque occasion de notre présence collective et consciente. Nous devons faire acte de présence par une journée de lutte, grève des plateaux, grève des ateliers, blocage, toutes initiatives sont à étudier sur les coursives. C'est pourquoi nous appelons les personnes à l'extérieur à perturber les cérémonies de célébration du 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Donc ça, c'était en 2001, maintenant on est en 2021. Mais nous, on pense que c'est important de le relayer encore. Donc pour finir, il disait « Le 9 octobre doit être un jour de résistance contre la mort lente des perpétuités et des longues peines. Le 9 octobre doit être un jour de revendication pour le rétablissement des libérations médicales, des libérations conditionnelles et de toutes les mesures de l'application des peines. »
Et donc le 9 octobre, par référence à la date d'abolition de la guillotine en 81.
Ce qu'ils appellent la grande abolition de la peine de mort, des grands humanistes qui ont arrêté de tuer des gens prétendument depuis 40 ans en France.
Pour les laisser mourir dans des peines infaisables, mais loin de tout regard. Voilà. Et juste pour préciser, les maisons centrales, c'est les prisons pour longue peine. En fait, en France, il y a tout un système, il y a différentes prisons. Les maisons d'arrêt, c'est censé être pour les personnes en attente de procès, qui ne seraient pas censées être en prison, mais il y en a énormément.
Ou qui ont des courtes peines.
Et pour les courtes peines. Le centre de détention, c'est pour les peines moyennes, on va dire, qui sont déjà super longues. Et après, les maisons centrales, c'est pour les très longues peines. Donc, les régimes de détention, ils sont différents, mais même si ça s'empire aussi dans les centrales. En gros, avant, les centrales, ils avaient essayé de les rendre un peu plus vivables, vu que c'était des gens qui allaient pour faire perpétuité ou un petit peu moins. Donc, les cellules étaient ouvertes, il y avait un peu des activités, on pouvait faire un peu des trucs et tout. Et même maintenant, ils sont en train de faire en sorte que même dans pas mal de centrales, le régime soit de plus en plus dur, ouais. Voire régime d'isolement total pour tout le monde, pour des décennies. Hop.
Mais cette différence, elle est liée à un rapport de force, c'est-à-dire qu'en fait... En centrale, tout le quotidien, il tient avec le lien avec les proches à l'extérieur. Sinon, c'est intenable quoi, de faire 20 ans, 30 ans en prison. Et donc, en fait, c'est pour ça que, par exemple, les parloirs sont un peu plus agréables en centrale que, par exemple, en centre de rétention, où on est fouillé à chaque entrée, etc. Mais donc, voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment lié à un rapport de force que les prisonniers ont imposé, quoi, que... En centrale, c'était un peu plus agréable.
Oui, c'est clair que souvent, les surveillances permettent moins de choses en centrale qu'en maison d'arrêt.
parce qu'ils savent que en fait ce qui risque de passer, enfin les prisonniers ils savent que ce qui risque de passer contre eux à un moment donné, c'est quelque chose qui risque de rester pendant une grosse partie de leur vie en fait.
Ouais. Bah, et qu'on parle de quotidien de des fois 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Enfin, du coup, presque des vies entières, en fait. Enfin, des demi-vies ou enfin, sur des temps très longs. Et vu que bah, les agents de l'administration pénitentiaire, les gardiens, les surveillants, les matons, peu importe comment on les appelle, leur taf, ils bossent pour une administration, ils sont là tous les jours. Et comme dans toutes les administrations en France et ailleurs, ils font aussi selon les problèmes qu'ils rencontrent, et ils laissent passer plus ou moins de choses. Et c'est pareil avec les directions des établissements, quoi. Donc voilà.
Voilà, et pour parler aussi encore de la longueur des peines, il y a une chose dont on a parlé hier déjà, c'est qu'on en a parlé en parlant de l'infâme qui a écrit une lettre, mais c'est le cas de plein de gens. C'est qu'en fait, il y a pas mal de gens qui sont rentrés en prison pour des courtes peines ou pas si longues et qui ont enchaîné, en fait. Et notamment à cause de... soit de peines prises à l'intérieur suite à des soucis avec des surveillants, et aussi simplement parce qu'une fois que tu es rentré, une fois ta vie elle a été brisée, et tu peux très bien ressortir et re-rentrer pas longtemps après. Et des gens qui ont commencé par exemple pour un défaut de permis, ils peuvent y retourner, puis une peine de 3 ans, bah, après ça finit en peine de 30 ans, quoi.
Bah, c'est un peu ce que dit, je ne sais pas si on peut basculer là-dessus, mais c'est un peu ce que dit aussi Mickaël sur sa vie en quartier d'isolement. En fait, c'est un peu l'attente permanente de rien, parce qu'en fait, il n'a rien en cellule. Et il est seul en isolement, et il tourne quoi, dans sa cellule, il s'ennuie, et c'est une sorte de mort lente. Et justement, il écrit une lettre, s'appelle Santa Muerte, parce qu'il est donc à la centrale de Saint-Maur. Donc à la centrale Saint-Maur, c'est près de Châteauroux, et il est donc dans cette prison. Il avait écrit une lettre qu'on avait publiée sur le site de l'Envolée, et il y avait un ancien prisonnier de Saint-Maur qui avait commenté en fait sa lettre, et qui lui avait dit bon courage à tous ceux qui sont à Saint-Maur, qu'on appelait à l'époque Santa Muerte. Alors c'est un nom qui circule dans cette prison depuis très longtemps, parce qu'il y a eu de nombreux morts en fait tués par des matons à l'intérieur. Et ça a fait plaisir à Mickaël de recevoir ce commentaire. Et donc, il a réécrit une lettre qui s'appelle Santa Muerte, et qui explique en fait tout ce processus de mort lente en centrale et en isolement.
Et juste pour rajouter un tout petit truc, Mickaël, il fait partie justement exactement toujours du même cas de figure. Il est rentré pour une peine pas très longue. Et en fait, on va dire, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il s'est passé des bricoles à l'intérieur qui ont fait qu'une fois, deux fois, trois fois, il a repris des peines super longues, et qu'aujourd'hui, alors que je connais, j'arrive même plus à me rappeler de sa date de sortie, parce que je sais juste qu'elle est dans entre 8 à 12 ans. Quoi.
2032.
Je ne sais plus.
C'est ça dont tu parles.
Ah, ouais.
On va vous lire son petit courrier.
Yes.
Donc, qui nous vient du quartier d'isolement de la centrale de Saint-Maur, donc écrite en janvier 2021. Connaissez-vous Santa Muerte? Moi, ça fait 4 longs mois que je vis au creux de ses mains froides. Je parle bien évidemment de la centrale de Saint-Maur. Pourquoi l'appeler ainsi? Parce que littéralement, je suis en train de mourir à petit feu entre ces 4 murs glaciales. J'ai perdu 20 kilos à cause de l'eau polluée du robinet, et récemment, j'ai chopé une angine au cachot tellement il fait froid. Mais le plus triste, c'est que la toubib m'a prescrit un spray pour le nez pour soigner mon angine tenace, à croire qu'elle ne connaît que ça comme médoc. Que faut-il que je fasse pour que les choses changent dans cet abattoir à détenus? Nos conditions de détention au quartier d'isolement sont horribles, et on n'a même pas le droit à des soins dignes de ce nom. Faut-il qu'on se laisse mourir pour attirer l'attention de hauts responsables sur ce lieu inhumain? Ça ne servirait à rien, car nos vies ne comptent pas. Nous ne sommes que des numéros pour eux. Quand les matons pleurent pour leurs conditions de travail, tout le monde en parle et veut les aider à être plus payés, à en faire encore moins. Mais quand un ou des détenus se plaignent, on leur met la trique. L'écriture m'aide beaucoup. Avant, je faisais des prises d'otages ou des agressions violentes avec armes contre l'administration pénitentiaire. Mais j'ai compris trop tard que ça les arrangeait bien. Je suis rentré en prison pour 4 ans. Ça fait maintenant 9 ans que ça tourne. Et ça, jusqu'en 2032. Peut-être aurai-je droit à une conditionnelle vers 2024, mais Dieu seul sait de quoi est fait mon avenir. Si j'écris à cette heure-ci, 4h42 du matin, c'est parce que je me pose tout un tas de questions du genre où je serais si l'envolé ne m'avait pas écrit pour me montrer son soutien et donner l'occasion de m'exprimer autrement que par la violence et le sang, Qu'aurais-je fait comme dinguerie pour partir de Santa Muerte? Santa Muerte m'aura servi à une chose. Elle m'a ouvert les yeux sur cette société qui porte des œillères et qui se laisse manipuler par une politique carcérale et toute répressive. Les Français, libres, ne veulent pas savoir ce qui se passe dans leur prison. Et je dis leur prison, car c'est avec leurs impôts qu'ils font construire ces lieux où on torture, on viole et on tue leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères ou leurs mères. La plupart d'entre eux se croient à l'abri, mais ils ne sont pas conscients que n'importe qui peut atterrir ici. Combien de détenus doivent mourir derrière ces murs, entre les mains de l'administration pénitentiaire, pour que la population réagisse enfin? Un jour viendra où toutes les prisons seront à feu et à sang, car plus le monde extérieur évolue, plus le monde carcéral régresse. Je n'appelle pas une révolution carcérale et judiciaire. J'appelle juste à une réhumanisation des détenus en France. Cette France donneuse de leçons, cette France hypocrite. Quand un col blanc est condamné à 9 ans pour détournement de fonds publics, c'est-à-dire votre argent, cher Français, il est libéré au bout de quelques mois parce que monsieur fait une déprime. Mais quand un jeune de 20 ans prend un enferme pour avoir volé à manger et finit par se suicider en prison, l'administration pénitentiaire dit « une gamelle d'économiser ». Vous trouvez ça normal? Moi non. Il existe même des quartiers VIP. Pourquoi? Nous sommes censés être tous égaux en France. Alors pourquoi nous, simples citoyens, devons-nous faire notre peine dans la merde avec des tortionnaires comme Joliet, alors que d'autres sont comme à l'hôtel? Égalité, liberté, fraternité, mon cul. Force, courage et honneur à tous et à toutes les prisonniers et prisonnières de France. Mika.
Du lourd.
Ouais, c'est du lourd.
Ouais. Non, vas-y. Non, parce que moi, je voulais rebondir sur un truc auquel je pensais depuis tout à l'heure. C'est effectivement, c'est dur, ça peut paraître très dur. Mais en fait, justement, il faut briser cet isolement-là. Et ça vaut vraiment la peine, en fait, que tout un chacun, tout un chacune se lance dans des correspondances et des liens avec des gens qui sont à l'intérieur. Ça ne veut pas forcément dire promettre qu'on sera là pendant 20 ans. Ça ne veut pas forcément dire... aider pour tout, pour toutes les démarches, machin, alors que c'est sûr que des gens qui sont en prison, ils sont très dépendants, ils ont toujours besoin d'aide pour plein de trucs. C'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire ça, mais au moins rester en lien, rester en contact, dire on s'intéresse à vous, parler des paysages qu'on a vus, des promenades qu'on a faites, des fois c'est cool, de plein de choses en fait, ça brise l'isolement en fait.
On t'entend pas grand. Il y a Z qui veut parler. Mais on l'entend pas. Vas-y, parle.
Ouais,
on t'entend, c'est bon. En fait, je voulais juste rebondir. Comment ça se passe concrètement pour prendre contact avec un détenu? Comment on rentre en correspondance avec un détenu? Enfin, voilà. Comment ça se passe, en fait? Si on veut juste expliquer comment on fait.
Alors.
Je sais pas comment faire.
Il y a plein de manières, en vrai. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on veut, ce qu'on cherche, etc. Mais nous, ce qu'on peut dire en tant que l'envolé, c'est qu'il y a certains copains ou copines qui nous écrivent qui cherchent des correspondants. Donc, il suffit de rentrer en contact avec nous. Bon, nous, en tout cas, on peut filer quelques contacts. Pas tout le monde, on donnera pas... Enfin, nous, on a des rapports personnels avec des personnes qui n'ont pas forcément besoin ou envie. Mais on en connaît d'autres. Et après, il y a des trucs genre le courrier de Beauvais... Il y a des assos encore qui s'organisent pour juste faire des correspondances avec des prisonniers.
Donc contacter ces assos qui sont proches des détenus, comme les visiteurs de prison?
Alors les visiteurs de prison, en général, ils ne correspondent pas. C'est des personnes qui vont sur place et c'est une procédure ultra longue quand même. Mais c'est aussi, pourquoi pas, enfin, par exemple, ça fait partie des trucs que souvent on ne sait pas à l'extérieur et que les prisonniers ne savent pas non plus. Mais quand on est en détention, on perd plein de droits, on perd le droit d'association, on ne peut pas faire de pétition, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas. Mais par contre, on peut faire la demande normalement d'un visiteur de prison et c'est un droit basique. Enfin, on a le droit d'avoir son isolement familial, etc. Des fois, il n'y a plus personne qui vient de nous voir, rompu par le fait qu'il y a une personne qui vient une fois de temps en temps, par exemple. Et moi, je voulais parler vite fait d'un tout petit truc. Quand on parlait, par exemple, de Mika, etc., je voulais juste parler de, par exemple, cette lettre qui est sortie. Je pense qu'on ne se rend pas compte de à quel point ça peut avoir des conséquences pour les personnes qui les écrivent de les écrire. Et pour l'instant, à l'antenne, on n'a pas trop parlé de ça. Mais en fait, à l'envolé, on lit des lettres et on les publie souvent sur le site et aussi dans le journal. Et en fait, enfin, c'est des vraies prises de risque, ces prises de parole de la part des prisonniers et des prisonnières qui nous écrivent, et ça a des vraies conséquences à l'intérieur. Et je pense qu'on ne se rend pas compte que chaque lettre qui existe ici, même si ça peut avoir l'air juste d'être une lettre qui est sortie, et du coup c'est facile, et aujourd'hui on s'envoie des textos, des trucs, des machins toute la journée, en fait c'est une vraie prise de risque de, enfin, pour eux. Et par exemple, concernant Michael, on sait que, comment dire, le fait qu'il écrive à l'envolée, qu'il soit publié, qu'il soit écouté, etc., a des conséquences sur son enfermement à l'intérieur. Michael, son isolement, il vient d'être renouvelé de encore 3 mois, on ne sait pas pourquoi. On lui refuse tous ses rapprochements familiaux, on ne sait pas pourquoi. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le fait qu'il prenne la parole est un risque qu'il a décidé de prendre et qu'il veut continuer à prendre, mais qui a sûrement des conséquences pour lui aussi.
Parce que c'est aussi une prise de force. Enfin, ouais. Rompre l'isolement et se mettre en contact avec l'extérieur et essayer d'être entendu dehors, c'est super important aussi.
Oui.
Et la lettre de l'infâme qu'on avait lue hier, enfin l'infâme, c'est un peu pareil aussi. Il a en partie été tabassé parce qu'il est en lien avec des gens dehors.
Et je voulais juste rappeler un dernier truc qui n'a pas un lien vraiment, mais quand on parlait d'écrire à des prisonniers ou des prisonnières, je pense que c'est super important de se rappeler qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout d'argent à l'intérieur. Et que par exemple, quand on écrit à quelqu'un, c'est bien de mettre des timbres avec. Parce que sinon, ils ne peuvent pas répondre en fait. Mais même des timbres et des enveloppes. Enfin, c'est super important.
Et même parfois du papier. Ouais. Ils n'ont même pas assez d'argent pour du papier parfois.
Bah, en fait, les gens qui sont indigents, ils ont vraiment... C'est 20 balles par mois. Enfin, c'est où elle ou... Enfin, tu ne fais rien avec ça. Et encore, comme on disait, dans certains endroits, comme tu disais Elsa, à la Talo, tu n'as même pas les kits d'urgence. Ou,
ouais, tu ne filmes même plus le savon. Donc.
Voilà. Enfin, donc, il ne faut vraiment pas oublier cette condition. Et ce n'est pas un truc de faire de l'humanitaire ou quoi. C'est juste que si tu veux parler avec une personne, il faut lui donner les moyens de pouvoir te répondre. Enfin... Voilà.
Et en fait, je ne sais plus si on l'a dit, mais ces lettres-là qu'on a lues aujourd'hui, hier, et plein d'autres, enfin plein de prises de parole de prisonniers, de prisonnières ou de proches, on les a rassemblées dans un livre qui va sortir, alors je ne sais pas trop quand, avant le 9 octobre. En
exactement,
tout cas.
Avant cette
courant
date.
Courant septembre, ouais.
Fatidique.
Qui a un livre qui dit que non, la peine de mort n'a pas été abolie, c'est juste la guillotine qui a été supprimée. Et que l'État tue toujours et la prison tue pour de diverses manières. Et qu'il faut entendre les voix des prisonniers et prisonnières. Et aussi, voilà, penser vraiment à la prison. Il y a un appel un peu aussi aux mouvements sociaux, etc. En tout cas, à tous les gens qui bougent dehors, à dire il faut penser la prison. Elle est au cœur de nos vies. C'est elle qui fait tenir une société dégueulasse.
Oh oui.
Sans elle, cette société dégueulasse ne tiendrait pas. Donc si on se bat contre cette société dégueulasse, il faut prendre en compte la question de la prison et entendre les prisonniers et briser l'isolement au moins.
Carrément. Et donc, ce bouquin, j'ai pu l'intituler exact parce qu'on est en train de le finir.
Secret.
Ouais. Mais il sera édité aux éditions du Bout de la Ville, courant septembre. Et je sais que le sous-titre, ça sera « Depuis 81, les prisonniers troublent la fête ». Et du coup, il y a vraiment... en fait, c'est une sélection de textes, de prises de parole qu'il y a eu, qui ont été retranscrites aussi, concernant toutes les manières dont... Comment dire, enfin, qui font que la prison tue. Il y a les morts suspectes, il y a le refus de soins, il y a...
Les suicides.
Il y a le fait de laisser couler le sable dans le sablier très très longtemps et d'avoir aussi les gens à l'usure.
Une remise de peine, etc.
Bref, il y a tout ça. Il y a aussi quelques témoignages de la situation pendant le Covid. Enfin, il y a tout un espèce de recueil de tout ce qui passe dans l'envolée depuis 20 ans et qui vient aussi d'un livre qu'il y avait eu avant qui s'appelait « Peine éliminatrice et isolement carcéral » qui était sorti, qui avait été fait aussi par l'envolée.
Et il me semble, on dit qu'on n'est pas sûr du titre, il me semble quand même que le titre, ce serait quelque chose comme « La peine de mort n'a jamais été abolie ».
Exactement, mais il y a un sous-titre après, c'est ça que je ne sais pas.
Bah, dit et écrit de prison, peut-être.
Ah, c'est bien, c'est ça. Exactement, dit et écrit de prison. Voilà.
On passerait pas un petit morceau ?
C'est le moment, là.
Yes, c'est quoi ?
Allez. Et ben,
Sosomanes.
Ok.
Petite balade guitare.
Interlude au Baumet.
Bah, c'est le matin.
Le Baumet, c'est la prison de Marseille.
Voilà.
Vas-y.
Go.
Crève la tôle.
Crève. Mini-technicien, monte le bouton. Encore.
Allez, allez.
Appuie.
Allez, mini-technicien.
Yes.
Technicien.
Encore technicien. Direction les ténèbres. J'entends encore les tympans. Je mets
vie sont sous ma nef. Bienvenue au Beaumette. Une semaine aux arrivants, ça fait mal à la tête. Je suis monté en bâtiment, j'ai retrouvé mes frères. Ça m'envoie un colis, une plaque, un téléphone, couteau en céramique et une cartouche de blonde. Je fais le sport avec steak, en cellule avec Z. Assis sur mon lit, je repense à tout mon Jex. Je reçois des cantines, la cellule elle est pleine. En promenade ça fume, ça fait gonfler les pecs. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Je tire une barre en fumette, je gamberge. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Dans les coursives j'entends les pas des SS. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Je tire une barre en fumette, je gamberge. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. J'entends les pas des SS. L'actol c'est une routine. J'appelle ma femme au chenine. Je vois ma mère au parloir et elle voit que j'ai bonne mine. Et les jours passent et les mois défilent. Et les actions de Camé me donnent des fous rires. C'est la canicule, dedans il fait chaud. J'attends les crépuscules bercés par le ventilo. Un pote vient de rentrer, on s'occupe de lui. Je lui envoie tout ce qu'il faut pour qu'il passe une bonne nuit. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Je tire une barre en fumette, je gamberge. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Dans les coursives j'entends les pas des SS. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Je tire une barre en fumette, je gamberge. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. J'entends les pas des SS.
Vous êtes de retour sur l'antenne de l'Envolée. Non, c'est pas vrai. Sur Ici l'Ombre.
106.6.
Oui.
L'émission, on vient d'écouter l'émission de l'Envolée. On vient d'écouter Soso Manès, interview de musical au Beaumette avec une belle guitare et une belle voix. Et il tourne, et il tourne, et il tourne.
Ouais.
Et ben, du coup, on va basculer sur les Beaumettes. On voulait, dans cette deuxième partie d'émission, après donc, avoir parlé de la question de l'abolition de la peine de mort, qui donc, n'a pas été abolie en prison.
C'est la guillotine qui a été supprimée.
C'est seulement la guillotine qui a été supprimée. On voulait parler dans cette deuxième moitié du fait que aussi il y a non seulement la mort, mais il y a aussi en fait, les violences pénitentiaires qui sont donc permanentes et quotidiennes en prison. Et on voulait revenir notamment par des exemples, en fait, notamment des bagarres de prisonniers et prisonnières contre ces violences-là qui ont lieu assez récemment. Et on trouvait intéressant, notamment pour ce week-end, qui est l'idée d'utiliser l'outil radio pour parler de la question de l'enfermement, revenir sur ce qui s'est passé justement au Beaumette, mais donc au quartier femmes cette fois-ci. Entre novembre et décembre, donc 2020, à la fin de l'année de 2020. Donc ce qui se passait, c'est que depuis plusieurs mois, notamment avec le Covid, il y a eu des mesures, les conditions de détention se sont aggravées petit à petit au fur et à mesure des mois. Par exemple, les plexiglas ont été installés en parloir, les parloirs ont été réduits de moitié en temps, etc. Donc il y avait tout ça qui faisait monter la pression contre les prisonnières. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre, il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, ce qui a amené à un état d'urgence de plus, c'est-à-dire qu'il y avait déjà l'état d'urgence sanitaire, il y a eu le deuxième état d'urgence antiterroriste, ce qui a amené donc à l'intérieur. Ce qui se passe à chaque fois, c'est que ce qui se passe dehors s'est décuplé en pire à l'intérieur, et pour n'importe quelle loi, etc. Et en particulier, pour l'antiterrorisme, ça amène à la possibilité à l'intérieur de encore plus réprimer les prisonniers et prisonnières à l'intérieur. Et notamment, donc, il y avait de plus en plus de fouilles à nu qui avaient lieu à l'intérieur des Beaumettes, notamment à la fin des parloirs et avant les parloirs. Les prisonnières étaient donc fouillées à nu et également en sortant de promenade. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu intervention des IRIS puisqu'il y a eu un blocage des promenades. Les prisonnières se sont révoltées contre ces fouilles. Donc il y a eu un blocage de promenade, c'est-à-dire qu'elles refusent de remonter de cellule à la fin de la promenade. Et, de remonter en cellule, ouais. Et donc les IRIS, c'est-à-dire l'équivalent du GIGN pour, le, pour les prisons, pour la pénitentiaire, sont intervenus et ont complètement saccagé toutes les cellules des prisonnières, ont à nouveau fait subir des fouilles à nu extrêmement violentes contre les prisonnières, ont placé en quartier de disciplinaire, donc au mitard, de nombreuses prisonnières. Et donc ça s'est envenimé. C'est-à-dire que la violence qui avait déjà lieu s'est aggravée parce que les prisonnières commençaient à contester ça. Et ce qui s'est passé, c'est que les prisonnières ont décidé à ce moment-là de s'emparer d'une radio locale, enfin d'une émission de radio locale qui était une émission de dédicace, que les prisonnières s'envoyaient des messages de dédicace entre elles ou alors des proches dehors envoyaient des dédicaces aux prisonnières. Et elles se sont en fait emparées de cette émission pour appeler en direct et dénoncer ce qui se passait. Donc elles se sont emparées elles-mêmes de l'outil radio pour dénoncer en fait l'enfermement. Et donc, en fait, suite à ça, les fouilles se sont encore aggravées puisque les matons cherchaient les téléphones portables.
Fouilles de cellules.
Fouilles de cellules, mais aussi fouilles à nu. Extrêmement violentes. Et elles dénonçaient le fait que c'était particulièrement des violences sexistes. Et certaines parlaient de viol, puisque il y avait certaines fouilles à nu qui avaient lieu avec des matons hommes. Et c'était extrêmement intrusif. Et donc, suite à ça... À nouveau, encore plus de répression, hein, les placements en quartier disciplinaire, etc. Et donc, elle s'empare à nouveau encore plus de l'outil radio. C'est-à-dire qu'en courant novembre-décembre, de plus en plus, elle parle de ça en direct à l'émission. Et ce qui amène à vers Noël, à peu près, c'est ça, vers Noël 2020, toute l'émission, en fait, qui était une émission de dédicace auparavant, était devenue une émission de contestation de ce qui se passait à l'intérieur. En organisant la révolte. C'est-à-dire qu'il y avait des prisonnières qui appelaient en disant « On bouche les oeilletons à 8h du matin pour empêcher les matons de nous voir. On tape au barreau à telle heure, à telle heure, à telle heure, en criant tel slogan, etc. » Et même en utilisant la radio pour taper en direct sur les barreaux. Et on entendait donc les bruits de barreaux taper avec des slogans, etc. Et donc c'est là-dessus qu'on voulait revenir, dans la mesure où c'est assez impressionnant en fait de voir que les prisonnières ont décidé elles-mêmes de s'emparer de l'outil radio, qu'on essaye justement d'être assez inclusif et ouvert. Enfin, comment dire, on essaye de faire en sorte que ces radios associatives qui existent un peu partout servent justement à ce genre d'initiative. Et là, en fait, c'est elles-mêmes qui l'ont décidé. C'était une émission qui, théoriquement, c'était pour des dédicaces. Et, voilà.
Et une petite parenthèse là-dessus, c'est que justement, des fois, ça vaut la peine. Des fois, on tient des émissions de radio pendant longtemps en se disant « Bon, pas grand monde écoute, patin, machin. » Ou on essaye d'écrire à des gens qui sont en prison, puis en fait, pas grand monde nous répond et tout. Et en fait, ces liens qui sont entretenus, bah, des fois, un jour, ça sert vraiment, quoi. Bon, ouais. Parloir libre à Marseille, quand même, c'est un truc qui tient depuis très longtemps et qui est très, très utile et très utilisé.
Parloir libre, en fait, ça fait référence, c'est des jeunes du quartier de Belzins qui avaient des potes à l'intérieur. Ils voulaient leur parler, envoyer des messages. Du coup, ils ont créé une émission de radio dans la rue pour envoyer des messages aux Baumettes. Et c'était dans les années 80, alors je n'ai pas la date exacte, mais c'est en lien, c'est en référence avec les mouvements pour les parloirs libres qui avaient lieu au Baumettes, à Nice, à Nîmes, etc. Il y avait des prisonniers qui allaient sur les toits en 86-87 et qui réclamaient des parloirs libres, c'est-à-dire des parloirs sans être soumis aux violences des matons, à la surveillance des matons, etc. Et du coup, ils ont repris ce nom-là pour parloirs libres. Voilà. Et donc, c'est une émission qui c'est en fait la plus vieille émission de Radio Galère.
Ouais, donc c'est sur Radio Galère à Marseille, l'émission dont on parle. Mmh. Et peut-être pour pouvoir aller plus loin sur ce sujet, il y a un article dans le dernier numéro de l'Envolée qui s'appelle « Ici, c'est Marseille bébé ». Page 23 qui permet de revenir sur toute cette histoire et aussi par rapport à la situation particulière de la MAF des Baumettes aussi concernant comment ça s'appelle l'histoire des fenêtres qui ont été fermées là.
Ah ouais, donc oui, j'ai oublié d'en parler. Ouais. Elle dénonçait outre les... Enfin, il y avait les fouilles à nu, mais il y a aussi un autre truc que dénoncent les prisonnières, c'est les fenêtres anti-bruit. Parce que donc, dans le quartier des Baumettes, c'est à côté des Calanques, c'est un endroit, c'est un quartier de Bourges, et c'est très agréable de vivre là-bas, j'imagine, pour eux. Et donc les riverains, en fait, sont...
Pas pour les prisonniers.
Pour les prisonniers, pour les riverains. Et les riverains, donc, sont pas trop potes avec les prisonniers, on va dire. Et donc, ils ont demandé, en fait, à installer... Enfin, ils ont râlé contre le fait que la prison faisait du bruit, les riverains. Et donc, l'administration pénitentiaire a écouté cela et a installé des fenêtres anti-bruit aux cellules du quartier femmes, qui sont donc proches des riverains.
Et donc les fenêtres anti-bruit, voilà, ça consiste à...
Ça consiste en fait à... c'est des fenêtres qui certes coupent le bruit, mais en fait qui coupent aussi l'oxygène. Et donc ça fait que les odeurs de chiottes, les odeurs de clopes, les odeurs de friture, tout ça reste à l'intérieur de la cellule.
Elle s'ouvre à peine en fait, c'est
et
ça.
Et qu'on ne peut plus faire de yo-yo, qu'on ne peut plus
discuter entre cellules. Ouais.
Ouais, voilà, se crier des trucs, s'envoyer des trucs.
Et donc l'été, c'est particulièrement intenable. C'est extrêmement, il fait extrêmement chaud, impossible d'aérer. Enfin voilà. Et donc il y a ça, et il y a une nouvelle répression en plus de ces fenêtres anti-bruit qui a été installée à la suite de la révolte de cet hiver, qui est donc l'installation de brouilleurs de portables. Puisqu'elles ont dénoncé vers l'extérieur par l'utilisation de portables, vers les proches ou vers les missions dont on parlait. Et donc aujourd'hui, il y a des brouilleurs qui sont poussés vraiment en ce moment, depuis un mois, à une limite vraiment extrêmement haute, qui fait que les riverains eux-mêmes se prennent ça aussi dans la gueule.
Et petit message à toutes les personnes qui pensent que parce qu'en ce moment, dans certaines prisons, on installe des téléphones dans des cellules, souvent d'ailleurs, pour pouvoir communiquer. Avoir un téléphone portable en prison, ça permet d'appeler ses proches à l'heure qu'on veut, etc. Mais c'est aussi que ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, en fait, pour téléphoner d'une cabine de la prison, c'est des prix hallucinants. Enfin,
c'est exorbitant.
C'est incroyable. Enfin, de toute façon, c'est du racket permanent. Les cantines, c'est du racket, le téléphone aussi.
Tu peux nous dire, tu sais, à peu près, pour comparer, pour avoir une idée comme ça.
Le prix des clopes, là, tu parlais du prix des clopes.
Oui, voilà.
À 6.
Pour voir ce que c'est que exorbitant, tu vois.
Ouais, Murray.
Ouais, bah, par exemple, quelqu'un que moi je vais voir en région toulousaine, il m'expliquait que bon, le prix du tabac pour les rouler, c'est un truc genre 5 à 6 euros de plus le paquet. Et ça me disait encore ça va. Parce qu'en vrai, ce qui se passe par exemple, c'est qu'il n'y a que des matons, des surveillants qui. C'est la seule manière d'avoir des blondes, des cigarettes cousues là. Et que le paquet en ce moment à 6 et à Murray, c'est 50 euros. Le paquet.
Sachant que, en fait, les prisonniers et prisonnières n'ont pas de revenus. Et quand, par exemple, quand on travaille un mois, on peut toucher 300 euros.
Ou et 150 euros.
Il y a plein de gens qui touchent 50 euros dans un mois, même pas. Donc, c'est aussi en regard de ça. Tout et le fait. Téléphone, moi, je me souviens de plans genre 20-40 euros pour une heure. Hein.
Oui, c'est un truc de
par jour, vraiment.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, c'est comme au début des téléphones portables, on achetait des petits tickets
et que même les textos, tu les payais.
Ouais, c'est à peu près le même délire, franchement. Mmh. Ouais. Mais bon, à vérifier, mais moi, je me souviens de trucs comme ça.
Non, mais moi, je sais que, par exemple, moi, un des copains avec qui je suis en contact par téléphone, il est indigent. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a personne qui lui envoie de l'argent. Et en fait, il ne peut pas écouter mes messages vocaux s'il n'a pas d'argent non plus. Donc, je ne peux même pas lui laisser un message, en fait. Enfin, du coup, c'est technique. Enfin, il faut toujours que ta carte soit un petit peu chargée, machin. Et moi, je sais que, par exemple, je ne connais pas le prix parce qu'il ne veut pas me le dire, parce qu'il dit c'est abusé, tu vas vouloir payer. Moi, je n'ai pas envie que, d'être dépendant de toi, essayer ça. Voilà.
Yes. Bon, bref, on voulait utiliser cet exemple pour en fait, rappeler que les violences pénitentiaires sont permanentes en prison et que, en fait, elles sont d'autant plus violentes quand les prisonniers ou prisonnières décident de dénoncer en fait ces violences-là collectivement. Et c'est ce qui s'est passé au quartier femmes des Baumettes cet hiver.
Et sans transition, on va peut-être en profiter pour du coup vous passer une prise de parole de Najet. Donc Najet, c'était la maman de Didier Médérès. Et du coup, peut-être qu'on va la laisser parler et qu'on va en discuter après. Parce qu'elle parle très bien des violences pénitentiaires et on va pouvoir parler aussi de... du fait que, du coup, cette famille, elle est rentrée dans le réseau, comment ça s'appelle exactement ?
Entraide, Vérité et Justice.
Le réseau d'Entraide, Vérité et Justice qui s'est créé entre proches de personnes qui ont été tuées par la police et qui ont été tuées par la pénitentiaire. Voilà, c'est parti.
Bonjour, aujourd'hui, donc nous sommes début mai 2021, on est avec Najet, la maman de Idir, il est mort au mitard de la maison d'arrêt Lyon-Corba le 9 septembre 2020 et c'était une mort très suspecte. Officiellement, selon l'administration pénitentiaire, c'était un suicide, mais ses proches n'y ont jamais cru et ont tout de suite monté une association, Idir Espoir et Solidarité, et entamer un combat pour obtenir vérité et justice et plus largement dénoncer ce qui se passe en prison et dans les mitards. Donc, bonjour Najette.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom du collectif IDIR Espoir et Solidarité, qui inclut plusieurs familles victimes de l'injustice pénitentiaire, et de nous avoir invités.
Vous avez déjà organisé plusieurs mobilisations, démarches, et là, le 30 mai 2021, vous allez organiser un événement.
Effectivement, on a organisé un rassemblement qui sera une journée de lutte annuelle à chaque dernier dimanche du mois de mai à l'échelle nationale.
Ok, alors on va parler un peu plus tard, on reviendra en détail sur cet événement du 30 mai. Et pour commencer, je te propose de présenter un peu plus globalement votre combat et ce qui vous anime.
Nous menons ce combat contre toutes les violences infligées aux détenus et qui restent impunies, contre tout traitement inhumain que subissent les prisonniers et contre toute humiliation dans toutes les prisons de la France. Et aussi contre tous les éloignements et les transferts des prisonniers sans même aviser leurs proches et sans se préoccuper de la situation financière et la distance de leur famille. Et on lutte pour que ces monstres qui représentent l'État soient punis de leurs actes de barbarie. Eux qui se permettent de décider de la vie ou la mort d'un détenu. Et la plupart, c'est des Noirs et les Arabes. Et aussi lutter pour radier les couloirs de la mort, dit quartier disciplinaire ou mitard. Ils doivent être fermés définitivement. Parce que malheureusement, c'est là où il y a trop de morts et tortures, plus que suspectes et inexpliquées. Ces fonctionnaires de l'État profitent de leur plein pouvoir et se croient tout permis. Ils exercent leur stratégie de torture psychologique et physique jusqu'à entraîner la mort et par la suite la maquiller en suicide. Parce que ils savent très bien qu'ils sont couverts par leurs collègues et leur hiérarchie et par la justice, bien sûr, en détruisant les familles entières. Et ça dure depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça continue encore et encore. Et cette injustice qui ferme les yeux sans que ces monstres soient jugés et condamnés, ils continuent toujours à exercer ou pour certains sont mutés et montés en grade. Et pourtant, on est dans un pays de droits de l'homme, de liberté, de l'égalité et fraternité. Alors on se demande, ils sont où tous ces droits? Elle est où la vraie justice? Les détenus sont des êtres humains avant tout. Ils ne sont pas des animaux. Ils ne sont pas juste des simples numéros d'écrou. Ils ont des familles. La plupart, c'est des mères et des pères de famille. Ils sont des citoyens français. Pourquoi leurs droits sont bafoués? Qui les protège de ces monstres? Nous, les familles, on exige que la justice soit rendue et que la loi s'applique pour tous. Que ces monstres soient jugés et condamnés de leurs actes monstrueux. Que les vidéos de surveillance soient consultées et bien conservées après un drame et que les surveillants soient équipés d'appareils vidéo. Que la justice prend en considération la parole des détenus et pas juste les surveillants. Que les vraies réponses soient transmises aux familles. Pas des scénarios montés en toutes pièces pour nous faire croire leurs mensonges. Nous demandons que les médecins légistes soient honnêtes dans leurs rapports et qu'ils arrêtent de participer à des mascarades et arrêtez de nous faire croire que nos proches sont suicidaires. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous connaissons très très bien nos proches. Ils ne sont rien d'un suicidaire. ils ne seraient jamais, jamais passés à l'acte. Les prisonniers ont le droit de purger leur peine dans la dignité et le respect. On fait appel à toutes les familles des détenus pour se mobiliser le 30 mai parce que personne n'est à l'abri. Les détenus sont en danger. Il ne faut pas dire « je ne suis pas concerné » parce que nous aussi, on n'était pas concernés jusqu'à être touchés par ce drame terrible. Et je fais appel à tous les proches des détenus. Rassemblons-nous pour dire stop à l'impunité faite par les surveillants. Stop aux crimes crapuleux maquillés en suicide. Laissez-les sortir vivants. Et pas comme mon fils Idir, Zemani, Benoît, Bilal, Farid, Khalid, Eidi, Jimouni, Toufik, Jamel, Mehdi et plein d'autres. Paix à leur âme, tous sortis les pieds devant. Et là, ça devient très, très grave. Et pour lutter contre la prescription de toutes les affaires similaires, quand les familles n'ont toujours pas obtenu de réponse. Et pour dire stop au massacre qui détruit des familles tout entières, qui vit dans leur douleur, leur souffrance, qui attend toujours la vraie justice et la vérité depuis des années, pour pouvoir enfin faire leur deuil et vivre en paix. Tant qu'il n'aura pas de justice, il n'aura pas de paix. Notre association s'appelle Idir Espoir et Solidarité. Et on a mis en place une pétition pour radier les mitards, dit quartier disciplinaire, et pour nous, c'est les couloirs de la mort. Et on vous invite à aller la signer, s'il vous plaît, pour pouvoir sauver des vies, parce qu'on ne sait pas qui sera le prochain. Notre association, elle est sur tous les réseaux sociaux. Il faut juste taper « Nous sommes Idir Espoir et Solidarité ».
Ok, donc vous êtes à l'initiative d'un rassemblement qui aura lieu le 30 mai à Lyon. Ça se passe où ?
Le rassemblement du 30 mai à Lyon aura lieu place Bellecour à 14h. Vous trouverez toutes les informations sur notre page Facebook. Et sans oublier, nous remercions aussi toutes les personnes qui ont répondu à notre appel et vont organiser un rassemblement dans leur ville le même jour à Nantes, Bordeaux, Perpignan, Béziers et peut-être Paris et Saint-Étienne. Nous faisons partie du réseau d'entraide Vérité et Justice qui regroupe des familles de victimes, des mutilés, des collectifs anti-répression qui luttent contre les violences d'État, entre guillemets violences policières et violences pénitentiaires. Nous les remercions aussi pour leur soutien précieux. Et vous trouverez sur leur page les informations sur les rassemblements qui vont se passer ailleurs en France, en dehors de Lyon. Merci.
Ok, bah on se retrouve dans la rue, dans plusieurs endroits de France et à Lyon, le dimanche 30 mai, contre les morts suspectes en prison, contre les mitards et contre les violences pénitentiaires.
Oui, c'est ça. Et je fais un appel, s'il vous plaît, venez nous soutenir. Il ne faut pas dire je ne suis pas concernée, parce que nous aussi, notre famille, elle n'était pas concernée. On n'était pas dans ce milieu. Et là, malheureusement, on est touché par ça. Venez nombreux et comme ça, on soutient les prisonniers. Parce que vraiment, vraiment, ils sont en danger. Les prisonniers, ils sont en danger, là. Et voilà, quoi. Soyez nombreux. Mais c'est fini, le verre est blanc. En bas écrit, entends-tu leur voix, la voix de ces familles, plein de chagrin.
voilà. C'est l'équipe de l'Envolée en coprod avec Ici l'Ombre, la radio de Concertina. On vient d'écouter Najette, on peut saluer le combat de Najette, sa famille, ses proches, pour faire la lumière sur le décès très suspect d'Idir Omitar de Lyon Corba. Voilà. Donc très suspect parce qu'il y a quand même au moins un autre prisonnier, voire plusieurs, qui ont dit qu'il avait été tabassé, qui ont dit que les surveillants, notamment, leur ont coupé l'eau et l'électricité pendant plusieurs, pendant un moment, au point qu'ils ont dû boire l'eau des toilettes, etc. quoi. Donc la famille Najette, la maman de Idir, sa famille, ses proches et pas mal d'autres gens se sont organisés pour dénoncer tout ça et pour dénoncer les quartiers disciplinaires comme un lieu de torture et un lieu de mort, parce que c'est vrai qu'à l'abri des regards, il y a des choses très violentes qui s'y passent et très suspectes. Et ça fait très très longtemps que des prisonniers et des proches le disent. On rappelle que Najette et d'autres personnes qui avaient organisé cet événement du 30 mai étaient là sur Concertina, ont animé un atelier très complet sur les violences pénitentiaires vendredi. Voilà, il paraît que c'était très intéressant. Il n'en était pas encore arrivé, mais je pense que c'était très intéressant parce que c'est ça, ça permet de parler des violences pénitentiaires plus globalement, ce qui permet qu'il y ait des gens qui meurent entre les mains des surveillants. C'est que la prison est un lieu dans lequel on peut exercer, enfin les surveillants peuvent exercer tout type de violence psychologique ou physique
en toute impunité.
Plus ou moins légale, parfois pas légale, en toute impunité et loin des regards. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut y mettre ses oreilles et son regard pour qu'ils ne se sentent pas non plus que c'est la fête du slip, quoi.
Et est-ce que tu peux revenir sur comment ça s'est passé le 30 mai dont parle la mobilisation, voilà, dont parle Najette ?
Donc en fait, elle a lancé cette idée et ça a pris un peu. Donc il y a eu des rassemblements, si je ne me trompe pas, il y a eu une manif à Nantes, il y a eu un rassemblement à Paris lancé à l'appel de la famille de Jimoni Rousseau-Sissoko, on en parlera. Il y a eu donc le rassemblement à Lyon.
Il y a eu des banderoles qui ont été affichées un peu partout dans Toulouse, on l'a appris après.
Ouais, il y a eu, je pense qu'il y a eu des rencontres au parloir, devant les parloirs à Perpignan.
Ouais.
Et il est possible qu'on en oublie, à Bordeaux et Béziers.
Oui,
peut-être.
Tout à fait, autour de la prison de Gradignan. Ouais,
ouais, voilà. Et donc, c'était un premier événement, mais vraiment l'idée, c'est de se rassembler, se fédérer. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de familles qui ont vécu ce genre de choses et qui le dénoncent. Il y en a qui sont très isolés et qui d'un coup peuvent découvrir que d'autres gens l'ont vécu. Il y a par exemple un mec qui s'appelle Sofiane Mostefaoui qui est mort dans la même prison à Corba à Lyon il y a presque 10 ans maintenant. Sa famille s'était mobilisée. Et ben là, ça fait écho et ça fait des rencontres et des gens qui se renforcent. En plus, c'est des drames absolument terribles. Et en fait, on est rarement mieux épaulé que par des gens qui ont vécu les mêmes choses. Vraiment, ça aide. Et en plus, là, ils ont rejoint le réseau Entraide, Vérité et Justice qui était en train de se monter, qui s'est monté beaucoup avec des familles proches et comités Vérité et Justice qui se battaient suite à la mort de personnes entre les mains de la police et qui se sont battus pendant longtemps, qui se battent encore et qui, pareil, se disent que fédérés, on est plus fort et qui donc s'entraident sur plein de questions. Et là, il y a eu cette jonction aussi. Les gens se disent les morts entre les mains de la police, les morts entre les mains de la pénitentiaire, c'est très similaire, c'est des violences similaires avec des différences aussi.
Mais c'est donc, des violences d'État et c'est la même logique.
Et c'est les mêmes personnes qui sont visées.
Et en plus, c'est le même genre de personnes qui sont visées.
Ouais, ça faut le dire.
Ça, c'est clair. En fait, suffit de regarder les noms de famille des personnes mortes et des personnes qui se battent. En fait, faut pas se mentir, c'est des Noirs et des Arabes et des Gitans en général. Voilà.
Jeune qui était dans la rue.
Qui était dans la rue ou qui était en prison. Ouais.
Voilà, donc oui.
Question.
Non, c'est. Je voulais rebondir, mais.
Mais rebondir, hein.
Ah, il est timide. On voulait quand même évoquer.
Ça coupe le souffle, vos histoires.
On voulait quand même évoquer deux autres histoires.
Ouais.
Il y en a plein d'autres, malheureusement, mais Il y a deux autres histoires qui ont eu lieu cette année avec des familles et des proches qui sont mis en mouvement pour dénoncer ça. Donc, on va en parler vite fait.
Ouais, on va en parler vite fait aussi parce que, en fait, il y a plein de morts suspectes en prison. Il y a un mort tous les trois jours en prison, ça on le sait. On ne dit pas qu'il y a une personne qui est tuée par la pénitentiaire tous les trois jours. Il y a plein de manières de mourir en prison, on en a déjà parlé juste avant. Et donc c'est pour ça que nous on dit que la prison tue, c'est que concrètement elle tue, et elle tue beaucoup. Mais on pense important de mettre en avant ces histoires parce qu'elles sont récentes, mais aussi parce que c'est des familles qui tout de suite ont décidé de se bagarrer. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la force qu'il y a besoin pour se bagarrer quand on vient d'apprendre la mort d'un proche sans l'accompagner vers la mort entre guillemets, ou avoir l'info qu'il allait peut-être perdre sa vie en fait. Enfin, la pénitentiaire est censée aussi garantir le maintien en vie, je ne sais pas comment dire ça, des personnes qui sont incarcérées. Donc,
Tu peux revenir sur l'histoire de Tofik. La famille a été prévenue bien après, quoi.
Juste, il est midi. C'est juste pour informer les auditrices, auditeurs qu'il est midi. Et que si vous suivez la grille, on est dans l'actualité de l'enfermement avec Louis, qui prépare quelque chose et qui le diffusera plus tard. Donc voilà, vous pouvez rester à l'écoute. On est de toute façon depuis une heure dans l'actualité de l'enfermement et... Et ça continue.
On déborde un petit peu en attendant Christine.
Ouais.
Un petit peu de retard. Et c'est les joies du direct.
Mais ouais, c'est cool. Du coup.
Du coup, ce que je disais, c'est. Tu parlais de la difficulté d'apprendre le décès de quelqu'un dont on est proche en prison. Et tu peux revenir justement sur les conditions dans lesquelles la famille Tofik a appris la mort de Tofik à Perpignan.
Alors, je veux bien essayer de la raconter, mais vous me coupez si je dis des bêtises. Tofik Belritri est le papa de plusieurs enfants. Il était en prison. Et en fait, un jour, il y a un prisonnier qui sort de prison, qui va voir la famille de Tofik et qui informe la famille en disant « Il s'est passé un truc super bizarre. Renseignez-vous vite, vite sur Tofik parce qu'il s'est passé un truc, c'est grave. » La famille essaye de s'informer, appelle la prison à plusieurs reprises. À la prison, on leur dit « Nous, on est garant de la vie des gens. S'il y avait eu un problème, on vous aurait prévenu. Il n'y a rien. » Au final, il faut savoir que la famille a appris 3 semaines plus tard la mort de Tofik en détention. Et c'est même pas la pénitentiaire qui les a appelés, c'est en gros, je sais plus comment on appelle ça, mais les services civils, les services de la mairie. En gros, pour dire, il est à la morgue, son corps dérange. En gros. Donc, ils ont appris la mort de leur proche 3 semaines après son décès réel à l'hôpital, parce que la version de la pénitentiaire, c'est Tofik s'est étouffé avec un bout de viande à la prison de Perpignan. Super bizarre. Donc, il a été transféré à l'hôpital. Et en fait, là, enfin, c'est très, très bizarre parce que normalement, c'est la famille, c'est les proches les plus proches, c'est la personne de confiance qui décide qu'on débranche quelqu'un. Il a été débranché. Ils l'ont appris 3 semaines plus tard. Sans aucun avis de la famille, la famille a appris 3 semaines plus tard la mort de Tofik. La famille a été très courageuse et a décidé très, très vite de dénoncer cette situation. Ils étaient complètement paumés et il y avait de quoi, franchement. Pour la faire un peu rapide, ce qui s'est passé, c'est que Tofik est resté dans une chambre froide pendant 6 mois, jusqu'à il y a très peu de temps. Et aujourd'hui, il n'est toujours pas enterré. Je ne dis pas de bêtises. Non, on est d'accord. Ouais, il n'est toujours pas enterré. Ça a été des pieds et des mains pour avoir l'autorisation, ne serait-ce que de faire une autopsie. Parce que selon la pénitentiaire, un médecin légiste était déjà passé à côté du corps de Tofik et sans faire d'autopsie avait dit « c'est sûr, il s'est étouffé, fin de l'histoire, signature en bas du papier et c'est fini ». Sauf qu'en fait, Tofik, il avait plusieurs enfants, si je ne dis pas bêtise, il avait 6 enfants. Enfin, bref, il y a plein de gens qui sont dans l'incompréhension totale, qui pensaient revoir leur papa dans quelques temps, qui envoyaient des mandats en prison, etc. L'argument de la pénitentiaire est de dire « nous n'avions pas de contact de la personne de confiance ». Grosse blague, parce que le père de Tofik envoyait des mandats tous les mois. Donc, en fait, ils avaient un contact, ils avaient un RIB, ils avaient un nom, ils avaient un numéro de téléphone. Bref, c'est une histoire parmi d'autres.
D'ailleurs, la mairie a trouvé le contact très facilement.
Bah oui, ils les ont appelés en disant « bref ». Donc voilà, exemple de ce qui se passe en France en 2020-2021. Ça, c'était fin 2020, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on peut maintenant passer sur une autre histoire. C'est juste pour qu'on se rende compte que ça a lieu très régulièrement et que ça concerne des familles entières. Et que déjà, on le dit déjà, quand on a une personne à l'intérieur, on, en tant que proche, on est enfermé avec nos proches. Ils sont dépendants de nous financièrement. Il y a plein de choses qui font que la famille est punie alors que la famille n'a pas été jugée. Mais aussi quand en fait, on vole la vie des nôtres qui sont enfermés, soi-disant, pour purger une peine et après en être lavé une fois qu'ils sortent, ce qui reste à discuter aussi. Mais je vais enchaîner sur l'histoire de Djimoni Rousseau-Sissoko. Djimoni, il venait de rentrer en prison. Il était à l'intérieur depuis 2 semaines. Il était à la prison de Moshokonin. Il avait 28 ans. Et un jour, il a refusé de remonter de promenade. Comme on disait tout à l'heure pour les filles des Baumettes, il a juste bloqué la promenade, c'est-à-dire qu'elle a dit « Non, moi je rentre pas en cellule ». Il y avait un souci, en fait. Apparemment, l'histoire, c'est qu'on lui avait imposé un codétenu. Et que du coup, en gros, on lui a imposé quelqu'un dans sa cellule et que lui, il disait « Ça va pas du tout le faire, on m'a pas prévenu, je veux pas, du coup, je bloque la promenade ». En gros, en général, quand on bloque la promenade, bon, on finit au mitard, au quartier disciplinaire. Voilà, bon, ça fait partie du risque, mais c'est la seule manière de se faire entendre. Il n'y a aucune autre manière de se faire entendre. Ils décident de faire ça. Il se trouve que du coup, ils font intervenir les ELAC, les équipes locales de sécurité et de... C'est quoi le C ?
Je sais pas.
Bon, bref, les ELAC ELSP, en gros... Alors, c'est pas les ERIS dont on parlait qui sont le GIGN de la prison, qui sont appelés pour venir de l'extérieur, mais c'est en gros l'équipe de sécurité de la prison, interne à la prison, un nouveau service qui a été... instauré en prison il y a quelques années.
C'est des matons cagoulés, surarmés.
C'est ça, c'est juste qu'ils connaissent aussi les détenus parce qu'ils sont toujours sur la même prison.
C'est la BAC de la prison.
Voilà, c'est un peu la BAC de la prison. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on sait que Djimoni a accepté de se faire menotter. On sait qu'il a été emmené de force parce que ce n'est pas des gens très gentils. Ils utilisent la force et c'est leur boulot d'utiliser la force et ils ont le droit d'utiliser la force. Donc voilà. Et donc, ils décident de l'emmener au quartier disciplinaire. Sauf que ce qui se passe, c'est que la famille apprend... je ne raconte pas la suite parce qu'on ne la sait pas. Il n'y aurait que la version des matons. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a la version des matons. Depuis, on va pouvoir raconter. Mais en gros, après, Djimoni se retrouve à l'hôpital en arrêt cardiaque. Voilà. La famille est informée. La famille galère énormément à ne serait-ce que voir le corps. Parce qu'il faut des autorisations du PROC, parce que c'est encore la pénitentiaire qui surveille le corps alors qu'il est en arrêt cardiaque à l'hôpital. Et du coup, Koura, par exemple, sa petite sœur, met très longtemps à avoir l'autorisation de voir son frère. Et quand, en plus, elle voit son frère en arrêt cardiaque, à l'intérieur, il y a les forces de l'ordre qui lui interdisent, par exemple, de soulever la couverture, donc de regarder s'il a des hématomes, par exemple. Pas le droit, il y a juste le droit d'être à côté, de ne pas toucher, de ne pas poser trop de questions. Et de toute façon, c'est encore un prisonnier, en fait. C'est encore quelqu'un qui est sous l'autorité de la pénitentiaire. Djimoni est mort une semaine après. Il a succombé à l'arrêt cardiaque qu'il avait fait. Et ce qui se passe, et qui est très, 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 très rare, c'est qu'on se met à en parler un petit peu dans les médias. Pourquoi ? Parce qu'il y a un surveillant de la pénitentiaire qui décide de faire une lettre à la maman, à la maman de Djimoni. Il lui envoie une lettre en disant « J'ai assisté à la mise à mort de votre fils ». En gros.
Ouais, c'est en gros, il y a ça, il y a un maton, de manière anonyme, qui a dit ça.
Voilà. Et du coup, il y a l'AFP qui fait un de ses titres en disant, en gros, un surveillant de la pénitentiaire dénonce l'impunité de ses collègues, quelque chose comme ça.
Parce que les médias ne croient jamais les prisonniers.
Non, ni leurs proches, la preuve. On ne nous croit jamais. Peu importe qui va témoigner en disant, par exemple, Najet, personne ne l'écoute, personne ne la croit. Les personnes à l'intérieur qui ont dénoncé la mort d'Idir Médérès, du coup, au mitard, personne ne les croit. Mais quand un surveillant pénitentiaire fait une lettre anonyme, l'AFP titre qu'il y a un surveillant pénitentiaire qui dénonce la mise à mort d'une personne au quartier disciplinaire, loin des regards, loin de tout. Ça ne veut pas dire que le combat est gagné ou quoi que ce soit pour la famille de Djimoni Rousseau-Sissoko, même si sa famille continue à se battre, même si son ex-compagne est toujours super déterminée, sa sœur, plein de gens de la famille, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont des réponses, ce n'est pas pour autant qu'ils ont été dédommagés, ce n'est pas pour autant que la justice bouge en leur faveur, on va dire.
Peut-être on peut rappeler aussi, suite donc à cette lettre anonyme du maton, on peut rappeler que des matons syndiqués, donc à la CGT pénitentiaire, ont publié un tract dénonçant donc le credo du lâche, c'est-à-dire que cette personne qui a envoyé une lettre anonyme disant « cette personne a été tabassée et est probablement morte donc, dans les mains de matons », est considéré comme un lâche par ses collègues.
Et il est menacé directement.
Il est menacé directement.
Ouais. Alors, pour que ça soit clair, c'est un communiqué du coup de la CGT pénitentiaire des surveillants de Mochoconin.
Donc, on rappelle qu'il y a une section pénitentiaire à la CGT qui est particulièrement donc, détestable et qui fait ce genre de choses, c'est-à-dire en fait menacer les collègues qui dénoncent les violences des matons et qui est en fait également la section pénitentiaire qui a demandé la censure du numéro 52 parce qu'on dénonçait les morts en prison, etc.
Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui a été réalisé par Laurence Deleur qui s'appelle Maton violent.
Qui était projeté à Concertina,
d'ailleurs. Qui a été projeté à Concertina, qui est vraiment intéressant parce qu'il retrace plusieurs histoires comme ça. Et notamment, il y a un ancien surveillant qui a dénoncé des collègues qui avaient tabassé un prisonnier et qui raconte ce qui lui est arrivé. Et lui, il a perdu son boulot, il a été harcelé, menacé. Jusqu'au plus haut de sa hiérarchie, on lui a dit « t'as dénoncé, c'est ton problème, fallait pas faire ça ». Lui, il se retrouve sans taf. Il explique tout ça très bien, je vous invite vraiment à le regarder. Et les surveillants qu'il a dénoncés ont été jugés, ont été condamnés et travaillent toujours dans la même prison. Voilà,
tout
ça
va bien.
C'est pour dire, c'est un exemple, mais c'est vraiment un système, ces violences. C'est pas que des dérapages, c'est un système tout entier qui fait qu'à partir du moment où on déshumanise une personne, bah on peut tout lui faire. Et que donc, c'est aussi pour ça qu'il faut regarder, entendre ce qui se passe, croire les prisonniers.
C'est ça, croire les prisonniers et leurs proches.
Leurs proches,
Et donc, ne pas en fait, porter aussi non plus une importance incroyable au fait qu'un maton, parfois, dise « mes collègues ont tué quelqu'un », puisqu'en fait, nous, on ne l'apprend pas, c'est pas nouveau. C'est en fait systématique.
Ouais, ou sinon, on peut rappeler aux matons qu'ils ont le droit de démissionner et de dénoncer leurs collègues. Voilà.
C'est ce qui peut leur arriver de mieux ou nous arriver de mieux.
Et voilà. Et on voulait enchaîner. Enfin, on attendait Christine.
On attend Christine toujours.
Mais moi, je voulais juste faire un mini clin d'œil sur le fait qu'il y a un milliard. J'ai pas de chiffres. Mais il y a vraiment plein de familles qui se battent et qui souvent lâchent l'affaire parce que personne ne les écoute. Mais c'est pas qu'ils ne s'expriment pas. C'est un peu comme les violences faites aux femmes. C'est que personne ne les écoute.
Juste dire, quand vous dites le réseau d'entraide, il y a un site, il y a quelque chose.
Alors, il y a une page Facebook.
Page Facebook, ok.
Il y a une page Facebook, il y a une page Instagram, bref, ils sont sur les réseaux à fond. En gros, c'est réseau d'entraide.
Un téléphone, un mail, tu vois.
Réseau d'entraide, vérité, justice.
Merci. Je connais pas Instagram. Mais...
Ah, on est dépassé, mec. C'est
non, mais oublie.
Pas un téléphone 06, quelque
chose.
J'ai
pas de 06, mais par contre, on peut donner le numéro de téléphone de l'envolé si vous voulez des informations éventuellement. Parce que sinon, on a un numéro de téléphone.
Bah oui, bah comment on fait pour vous contacter?
Alors, on peut même tout dire.
On reçoit les textos.
Ouais, et on peut même nous écrire des lettres.
Avec un timbre et tout.
Exactement. Du coup, l'envolé, c'est pour nous écrire, c'est 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Notre site internet, c'est toujours l'envolé.net, donc avec 2 E. Le mail, c'est contact@l'envolé.net, donc avec 2 E toujours, donc L-E-N-V-O-L-E-E. Et sinon, on est sur Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram. Et le numéro de téléphone, c'est le 07 52 40 22 48. 07 52 40 22 48. Et pour rappel, l'abonnement, c'est 15 € pour recevoir le journal et permettre à des prisonniers de le recevoir gratuitement parce que les abonnements à l'intérieur sont gratuits.
Donc, si vous connaissez quelqu'un à l'intérieur et qui voudrait recevoir l'envolé, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous faut le nom, le prénom et le numéro d'écrou et on enverra.
Et la prison quand même.
Et la prison, oui. Pardon.
Ou le centre de rétention ou le lieu d'enfermement.
Est-ce qu'on passerait pas un petit morceau en attendant Christine? Ça vous va ou
Ouais.
Où il y a encore...
Non, c'est bon.
Ça va. Allez, un petit morceau. Vous avez choisi quelque chose, non?
Alors, sûrement. Mais tant que je suis à l'antenne, le numéro 53 est toujours disponible. Il vient de sortir. Il est intégralement désapprouvé par le ministère des Tribunaux et des Prisons et l'administration pénitentiaire, mais il n'est pas encore censuré. Profitez-en. Thank you.
Et voilà, on s'est écouté Nasbill, la mélodie des briques.
Et donc, on arrive sur la fin pour l'antenne libre pour l'envoler. On voulait donc finir sur la question de Fabrice Borromée. Donc, ça va être la transition avec.
Bienvenue à toi, Christine.
Attention, Christine.
Ouais. J'ai promis à Fabrice, donc voilà, c'est un truc important. J'ai promis à Fabrice qu'on allait répondre à sa demande. Sa demande, c'est de faire le plus de courriers possible pour que sa parole soit entendue de la part de gens de dehors qui écrivent. En fait, Fabrice, allez, je reprends au début.
Ouais.
Parce que là, sinon, c'est
long et ça.
Alors, bon, déjà, Fabrice, qui est Fabrice? Ouais. C'est quoi son histoire?
Fabrice, c'est un minot de Pointe-à-Pitre. Qui a grandi dans la galère, sa maman est morte quand il était petit, placé en foyer où il apprend à prendre des coups des plus grands, puis placé en famille d'accueil où il apprend le respect de Dieu à grands coups de ceinture. Et puis, il trouve la solution vers à partir de 13-14 ans, il est dans la rue le plus souvent possible, il a son gang, il a sa famille qui s'est créée. Il est très fort au pied-point, il aime beaucoup la boxe. Il a un éducateur qui lui dit « Fais de la boxe, petit, arrête de faire le con dans la rue ». Mais bon, les deux vont très bien ensemble. Sauf qu'à 16 ans, première tôle, à 17 ans, deuxième tôle, à 20 ans, troisième tôle. Enfin, bon. En tout, depuis qu'il a 16 ans, il a passé une fois 4 mois, une fois 3 mois dehors. Maintenant, il en a 40. La dernière condamnation... c'était en 2011 pour un vol de scooter avec violence. Il avait pris 8 ans. Donc enfermé.
Pour un vol de scooter.
Ouais.
8 ans.
Avec violence. Avec violence.
C'est un délire. Quand
même. Et la violence notamment, c'est que son frère a pris une balle des flics qui sont venus les arrêter. Il prend 8 ans et là il avait commencé à prendre un peu de bouteille dans le gang et les matons savaient très bien que si jamais ils tentaient de lui faire la misère, il y aurait au minimum leur bagnole qui allait cramer. Donc ils décident de le déporter. C'est beaucoup plus simple, ils l'envoient en métropole. Il l'envoie en France où Fabrice n'a jamais mis les pieds, où il comprend pas l'accent, où il comprend pas l'organisation, parce que Pointe-à-Pitre c'est une tôle super surpeuplée où tout le monde est dans la cour très longtemps pour éviter que ça chauffe trop. Et là il se retrouve dans les tôles Bouygues à bouffer du petit pois carotte et voilà, il arrive pas, il est pas d'accord, donc il demande à rentrer au pays. Il le demande encore plus quand il apprend la mort de son papa. Il demande une extraction, le maton lui apprend comme ça, bon ton père est mort, voilà, même pas bon courage. Quoi. Quand il dit je veux sortir, aller à l'enterrement, le maton ricane, donc il se prend une chaise dans la gueule. Moi je trouve ça justifié, mais bon,
moi,
du
je
coup...
le comprends.
Moi aussi.
Du coup ça fait des années de plus. Après ces années de plus, il y a d'autres années de plus parce que... Il y a d'autres années de plus parce qu'il y a une tentative de prise d'otage pour essayer de se faire entendre. Bon, au final, actuellement, Fabrice, il est libérable en 2042.
Il reste deux jugements.
Et il reste deux jugements encore. Mmh. Et donc, ce que je disais, c'est que là, il est épuisé, lessivé, il n'en peut plus. Pendant un moment, il était content de ce statut de guerrier quand il faisait une prise d'otage, que BFM en parlait. Ça le faisait triper quand il recevait plein de lettres de plein de gens en disant vas-y mon gars t'es un warrior continue ça lui faisait plaisir, ça le maintenait en niaque. Maintenant quand il reçoit ce type de lettres, il y répond plus en disant bande de cons, c'est moi qui prends tous les nions dedans, je suis lessivé, qu'est-ce que vous faites dehors? Donc il m'a dit bon voilà, j'ai une solution pour que les gens puissent faire quelque chose dehors, c'est super simple, il y a une lettre. Alors là actuellement, je ne sais pas quand ça va être postcasté, mais actuellement, elle est à Diolfi, près du bistrot de Concertina, disposée sur la table. Elle est aussi dans la halle, sur la table. Et donc, il suffit d'écrire son adresse. Hein, on a fait le mode feignant, quoi. Il suffit de mettre son adresse sur la lettre, de la signer derrière. Il y a l'enveloppe à côté, il y a les timbres à côté. Donc, normalement, n'importe qui doit pouvoir y arriver. Et cette lettre, on a fait une lettre type qu'on envoie au ministre des prisons et des tribunaux. Et,
Super Dupont.
Et alors pourquoi Fabrice demande à ce qu'on écrive au ministre ?
Parce que lui, là, les revendications qu'il a, c'est la lettre, je vous lis un extrait de la lettre. D'ores et déjà, je m'associe avec Fabrice pour exiger immédiatement l'arrêt des fouilles humiliantes qui l'incitent à rester cloîtré en cellule, parce que donc là, il a le droit de voir, par exemple, un psy une fois par mois. Wow. Mais en fait, les robocops sont à la porte et le fouillent et le fassent contre le mur et pour aller juste dans la salle d'à côté. Donc il ne sort plus en promenade pour ne pas avoir à faire ces fouilles-là. Il est sur le lit tout le temps, donc il a mal au dos parce qu'il ne bouge pas assez.
Parce qu'il est en gestion équipée menottée, du coup.
Non, c'est fini les menottes.
Okay.
C'est fini les menottes.
Tu peux rappeler aussi, il est dans quelle tôle ?
Il est à Condé. Et à Condé, c'est là où il avait fait la prise d'otage il y a 6 ans. Et donc, il a une peur bleue. Il est tétanisé. En fait, il a perdu 15 kilos depuis les 3 mois qu'il est à Condé. Mmh. Il est tétanisé à l'idée que les matons vont rentrer faire de la vengeance à coup de poing dans la gueule.
Oui, parce qu'ils n'ont pas oublié. On peut être sûr qu'à Condé, il se rappelle très bien de ce qu'il a déjà fait.
Oui, mais lui aussi, il s'en rappelle. Mmh. Fabrice. Et il sait pourquoi il l'a fait. Sauf que maintenant, ça fait 4 ans qu'il n'a plus un seul CRI. Ça fait 4 ans que...
Compte rendu d'incident.
Qu'il n'est pas allé au mitard. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas été en commission de discipline. Ça fait 4 ans qu'il ne répond plus à aucune provocation. Donc, en fait, il devient mutique. Il ne parle plus au maton pour pas... Alors, voilà. Et il est lessivé. Il a l'ulcère qui le bouffe de l'intérieur. Il vomit du sang. Il a des dermatites. Il a des taches blanches sur sa peau noire, partout dans le dos, sur les bras. Il a des problèmes cardiaques, notamment la nuit, il se réveille en panique, il a le palpitant qui bat beaucoup trop vite. Il a perdu l'usage d'une oreille quand ils ont balancé des grenades assourdissantes dans une douche de 2 mètres carrés pour le faire sortir. Mm-hmm. Et donc là, ce qu'il veut, lui, c'est la deuxième... revendication qu'il a immédiatement, c'est la création d'un poste référent apaisement, c'est-à-dire un agent, peu importe, ça peut être un travailleur social, un travailleur médical, même un travailleur pénitentiaire, il s'en fout, mais quelqu'un qui parle créole et qui s'engage à venir parler quotidiennement avec lui pour retransmettre à ses collègues, à lui, que Fabrice n'est pas dans la revendication, et puis pour chercher avec lui les moyens de faire baisser la pression. Ça, c'est une demande de Fabrice qui mange pas de pain, qui coûte rien, mais qui change les habitudes de la pénitentiaire. Et c'est malheureusement le seul moyen qu'on pourrait avoir, parce que Fabrice est tellement détruit par l'isolement.
Ça fait 9 ans et demi qu'il est en isolement.
Ouais. Donc, il demande aussi, à très court terme, la sortie du QI et l'affectation en bâtiment.
Ouais.
Le transfert, avant ça même, avant de sortir du QI, le transfert dans une prison où il ne sera pas mis à l'index, c'est-à-dire ni Vendin, ni Moulins, ni Lannemezan, ni Saint-Maur, ni Réau, ni Arles. Il aimerait bien Poissy ou Annelin.
Mm-hmm. Et du coup, il l'a envoyé à Condé quand il a demandé ça.
Bien sûr. Foutage de gueule. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas de série. Il a le droit à un transfert disciplinaire. C'est magnifique.
Ils ont appelé ça transfert disciplinaire,
non.
Ou pas ?
Non. Transfert. Ouais, ouais. Mais de fait...
Oui, c'est le cas.
Et, parce qu'à Valence, où il était avant, il n'y avait pas eu de aucun problème avec la matonnerie, sauf que les 2 derniers mois, il avait arrêté de discuter. Mmh. Voilà, il voulait plus leur parler parce que il n'y avait rien qui changeait. Voilà. Alors, si, ils avaient levé le menottage, voilà, systématique. Ils avaient levé le menottage systématique, mais il n'avait pas plus d'activité. Il se sentait très seul. En fait, il avait demandé à partir en région parisienne, parce que là-bas, il sait qu'il y a des matons qui parlent créole.
Mmh.
Ouais. Et donc, à moyen terme, évidemment, la demande de Fabrice et de ses copains, c'est un transfert vers une prison de Guadeloupe et surtout une confusion de peine et une procédure normale d'aménagement de préparation à la sortie.
Oui, donc sa revendication, ça reste quand même de pouvoir rentrer chez lui.
Et de voir sa famille.
Voilà. Le reste, ça serait un peu des penchements sur une jambe de bois, mais ça serait le minimum qui a l'air plus accessible.
ça ne serait pas inaccessible d'être humain. Mmh. Normalement, oh, ça doit être possible.
Normalement.
Voilà. Il se trouve que Fabrice est un être humain.
Oui.
C'est fou, mais c'est encore ça. D'ailleurs, félicitations à Fabrice de rester un être humain après plus de 9 ans d'isolement.
Ouais,
c'est clair. Parce que c'est
un de la truc. Torture, en fait, tout simplement.
C'est la torture totale. Totale. Voilà. Il n'a rien à faire de toute la journée. Il est lessivé. Il dort beaucoup.
Est-ce qu'il a droit à des livres ou un truc ou rien. Non, je demande. C'est pas...
Il a le droit aux livres, mais il n'a plus le courage de bouquiner. Il y a quelques copains qui lui envoient des livres, mais il faut bien les choisir avec beaucoup d'images, des livres qui parlent de cuisine créole ou de boxe. C'est les seuls qui l'arrivent.
Mais comme distraction ou comme occupation, il n'y a rien à part ça.
Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une visite de psy une fois par mois et la visite de l'aumônier une fois par semaine.
Et personne qui parle créole.
Et lui, il ne parle pas aux fenêtres parce qu'il sait que ça va vite dégénérer en insultes, les insultes normales du soir et qu'il n'a pas envie d'entendre ça. Donc il ne parle pas. On s'est mis un deal tous les deux qui me téléphonait une fois par semaine. Si j'ai pas de coup de fil le lundi, j'appelle le SPIP le lundi et le mardi matin. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Mm-hmm. Et ce qu'il m'a fait promettre, et que j'ai promis sans aucun problème, c'est que si jamais il mourait, il faudrait pas laisser dire la pénitentiaire qu'il s'est suicidé. Et que ça serait très clair que c'est eux qui l'avaient tué.
Ça restera ici même. Yes.
Eh ben là, pour l'instant, la lettre elle est accessible au parc de la Baume, à Dieulfi, là où il y a le rassemblement concertina. Elle est juste à côté du bistrot, elle est facile à trouver. Elle est aussi sur la table de la halle. Et puis, si jamais il y a des gens qui la veulent en PDF pour pouvoir l'imprimer et la retravailler, la personnaliser, il suffit de faire une demande à café-du-8-café-tôle@rizup.net comme le café,
ouais, d'accord, café comme le café,
donc sans accent, du coup ça fait caf-bizarre-tôle.
Okay. Et du coup il y avait je sais pas du tout si c'est une bonne idée, tu vas nous dire Christine, mais dans le dernier numéro 53 du coup de l'envolée, il y a une lettre de Fabrice, on pourrait éventuellement la lire, c'est lui donner la parole
quand
aussi.
Quand il vient d'arriver à Condé-sur-Sarthe.
Est-ce
qu'il y a le temps ? C'est la vraie question.
Est-ce qu'on pourrait aussi se dire en clos après ça ?
Ouais, ça te va ou pas ?
Christine.
Ouais, est-ce que tu veux lire sa lettre ? C'est comme tu veux.
On peut le faire.
Ok.
Ça change de voix.
Allez, ça marche. Et du coup, oui, je voulais aussi proposer qu'éventuellement cette lettre ou le contact de Café Tôle ou je ne sais pas comment, qu'on puisse le diffuser aussi sur l'envolée, les réseaux sociaux, tout ça, histoire juste que ça arrose un maximum de gens qui puissent s'en saisir. Quoi.
Parce que Fabrice se fait un vrai trip dans sa tête d'imaginer tous les matins un secrétaire avec une bannette pleine de courriers qui rentre place Vendôme et qui dit « Bonjour, j'ai encore du courrier de la part de Monsieur Borromée. » Et voilà, ça, c'est son trip, le pauvre. Et, je ne suis pas sûre que ça se passe exactement comme ça. Mais il imagine un bureau amoncelé de lettres à l'adresse du garde des Sceaux et que chaque lettre qu'il ouvre à l'intérieur, ça parle de Fabrice. C'est un trip qui est presque accessible.
Ouais, et même si c'était 3 lettres par jour pendant 15 jours, il pourrait pas l'oublier, au moins. Ok, alors, quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Valence, le 18 mars 2021.
Okay. C'est juste avant son transfert.
C'est juste avant son transfert, parce qu'après, du coup, il est parti à Condé, comme tu disais. Salut, ça m'a fait du bien d'avoir de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien en ce moment et que vous gardez le moral et la force de rester debout avec le couvre-feu qui gâche la vie dehors et le moral et qu'aucun membre de votre famille n'est touché par ce virus et que vous arrivez à évacuer votre stress après une journée de travail dure et compliquée. Sachez que le sport aide beaucoup dans ces moments difficiles et je vous dis, ne baissez jamais les bras dans les moments durs et avancez avec la rage de vaincre comme un boxeur lors d'un combat, les amis. D'accord ? Et moi, je tiens le coup et je continue mon sport pour rester debout. La boxe, la muscu et le vélo. Je lis le livre de Jim Tully, Un vrai dans l'âme, sachez-le. J'ai demandé à être transférée à Paris pour être plus proche de ma femme. Le ministère et la prison de Valence ont refusé afin de me couper de mes liens de famille et pour mieux me torturer. Cela fait 5 mois que je ne peux pas voir ma femme, vu la distance de 600 km, et soi-disant à cause du Covid, ils nous ont coupé les UVF, donc les unités de vie familiale, et les parloirs, derrière un plexiglas, comme des animaux. Je tiens le coup, malgré tous les abus de pouvoir que j'ai subis. Ça fait 9 ans que je suis en isolement, pour des motifs bidons et discriminatoires. Je suis calme, mais je reste dangereux, entre guillemets, vu que je suis un preneur d'otages et DPS, donc détenu particulièrement surveillé, sachez-le. Au niveau santé, rien ne change, mais que veux-tu ? C'est l'abus de pouvoir. Bon, les amis, je vous dis prenez soin de vous et je pense à vous. Amicalement, l'ami Fabrice, papillon au bagne, 100%.
Et ben, gros courage à lui.
Ouais, plein de force à Fabrice. Et on essaie de vous partager très très vite du coup la lettre que Christine a bricolée à sa demande pour que puisse y avoir un maximum de monde qui puisse faire quelque chose, parce que c'est vrai que c'est plus possible en fait et que on peut pas savoir ça et rien faire en fait.
On va s'écouter un petit morceau pour clore, ça vous va?
Yes.
Merci d'être venu, c'était cool.
Merci à vous.
Mais à la prochaine et puis rentrez bien. Merci d'être passé par là. Courage Christine, courage à vous. Et on s'écoute Prison Song de Carlton Williams.
Courage à tous les copains, toutes les copines à l'intérieur. On est ensemble, il n'y a pas d'arrangement. Force, courage et détermination.
Dans la nuit, et de sa voix, oui, de sa voix lugubre, il a troublé le silence de la nuit. Et tous les hommes, encore ensommeillés, se sont dressés comme au cri d'une alarme. Et le vautour a repris son vol, il est reparti, je ne sais où. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Toujours à la même heure, plus de 100 vautours ont plané dans la nuit. Et sur les arbres autour du village, ils se sont perchés, attendant le matin. Ils ont surpris toute la cité et ravagé tout sur leur passage. Ils ont su tromper la vigilance des braves gars qui veillaient sur le village. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus.
ce temps, les peuples de l'Afrique recherchent encore ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils avaient de plus cher au monde a disparu avec les vautours. Et tous les soirs, autour du feu de bois, le son des tam-tams s'élève dans le ciel. On recherche encore l'introuvable trésor que les vautours ont emporté. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus.